S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
De professeur, n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Quelles sont les limites de l'Afrique dans l'Antiquité ? Quelle représentation, ou plutôt imago, en avait l'Égypte des pharaons ? Que nous apprennent les navigations des marins antiques du périple de la mer d'Érythrée au récit d'Hérodote, s'interroge François-Xavier Fauvel, directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains au Collège de France. Dans la présentation de sa première série de cours intitulée « Introduction aux mondes africains médiévaux », François-Xavier Fauvel explique, et je le cite, que l'Afrique a longtemps paru incontournable aux navigateurs méditerranéens. Partant de cette observation qui conditionne le regard porté sur l'Afrique depuis l'extérieur, le cours de cette année s'attachera à examiner le moment médiéval de l'histoire africaine. Dans son premier cours, l'historien archéologue a analysé comment l'Afrique ne fut pas découverte depuis l'Antiquité. Il s'est notamment attaché à ce qu'il appelle le métarécit de la découverte de l'Afrique. Ce sont, nous dit-il, les narrations qui inscrivent le récit de tel ou tel voyage vers l'Afrique dans un projet explicite de reconnaissance de son contour géographique, c'est-à-dire dans un projet de circumnavigation de la masse continentale que représente l'Afrique. Reprenant le titre du philosophe congolais Vumbi Yoka Mudimbe, « L'invention de l'Afrique », François-Xavier Fauvel explique que cette invention est un objet de connaissance. Elle est le produit d'une histoire discontinue d'appréhension de l'Afrique en tant qu'objet géographique connaissable. Il nous a expliqué dans le cours précédent, et je le cite, que l'Afrique est restée longtemps très mal connue de l'extérieur au regard de la précocité des objets visant à l'incorporer au monde connu. Pour exprimer ce paradoxe, on pourrait parler d'une géographie de la méconnaissance. Si le contour de l'Afrique sous sa forme graphique, souligne-t-il, n'aurait pu être reconnu avant le début du XVIe siècle, c'est parce que l'Afrique, je parle de l'objet géographique tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans sa masse continentale, n'existait pas dans les représentations occidentales. Ou plutôt, pour dire les choses plus justement, l'Afrique était non pas alors un contour naturalisé associé à un nom, comme l'est le logo d'une marque, mais une imago, j'emprunte ce terme à la psychanalyse, une image idéalisée du continent et qui résiste à l'expérience de ses métamorphoses. Nous gagnons le Collège de France le 31 octobre et le 7 novembre 2019 pour le cours de François-Xavier Fauvel, aujourd'hui, Périples antiques et circumnavigation de l'Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Demandons-nous quelle image on se faisait de l'Afrique dans la Méditerranée antique. Question évidemment trop vaste. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il existait une imago de l'Afrique comme un espace géographique pensable. Pour nous familiariser avec la géographie dont il va être question et tenter en même temps de nous convaincre de l'utilité de la question qui vient d'être posée, voici une image que j'ai produite à partir de Google Earth. Elle montre le sud en haut de l'image, l'Afrique centrée sur l'isthme du Sinaï, et de part et d'autre, les deux traits de côte, la côte indo-océanique à gauche, le long de la mer Rouge, le golfe d'Aden, et la côte méditerranéenne à droite. Je cherche à suggérer, par cette image, l'inconnu du bloc continental situé derrière l'horizon, c'est-à-dire au-delà des régions appréhendées par les navigateurs et géographes de l'Antiquité. Reste à savoir si cette vue satellitaire, qui est la nôtre, constitue davantage qu'une simple évocation d'une quelconque représentation cosmographique antique. Il est certain que les côtes de la Méditerranée et de la mer Rouge étaient fréquentées depuis des millénaires. Dans le sud de la mer Rouge et du golfe d'Aden, diverticule de l'océan Indien entre la corne de l'Afrique et la péninsule arabique, la circulation d'obsidienne entre les rives africaines et arabiques témoigne déjà d'échanges depuis le néolithique. On sait également que les Égyptiens du deuxième millénaire avant notre ère lancent déjà des expéditions maritimes vers le pays de Punt, dans les parages du Nord-Soudan, de l'Érythrée et du Yémen actuel, pour s'y approvisionner en résines odoriférantes, comme la myrrhe et l'encens, en queue de girafe et en défense d'éléphants. À l'ouest, au moins depuis l'âge du bronze final, dans le dernier tiers du deuxième millénaire avant notre ère, les rivages africains de la Méditerranée, surtout orientale, font quant à elles partie d'un vaste réseau d'échanges le long duquel circulent non seulement des matières premières telles que le cuivre, mais également des modèles politiques thalassocratiques. Dès le début du premier millénaire avant notre ère, les Phéniciens, bientôt suivis par les Grecs, commencent à fréquenter des comptoirs, puis à implanter des colonies le long des côtes de la Méditerranée occidentale, principalement sur le pourtour de la péninsule ibérique et le long des côtes méditerranéennes et atlantiques du Maghreb. En Ibérie, les premières visites de marchands phéniciens au Xe et IXe siècle avant notre ère, avant l'implantation de colonies à la charnière des IXe et VIIIe siècles, coïncident avec une densification de l'habitat et une hiérarchisation sociale des peuples indigènes ibériques du bronze final. Mais l'expérience pratique que supposent ces navigations n'implique pas nécessairement, du moins n'en avons-nous pas d'indication, de préoccupations proprement géographiques quant à la morphologie des pays qui se trouvent derrière les segments de côte les plus propices au commerce. Les praticiens de la géographie, que sont les navigateurs et les marchands, n'ont nullement besoin d'une représentation territoriale et continue des espaces, privilégiant plutôt pour leurs besoins une vision en réseau, une vision réticulaire des itinéraires entre ces espaces habités et une expérience concrète des conditions nautiques et sociales de leur pratique. Ils privilégieront donc profil de côte, amers permettant de reconnaître le but du voyage, récifs et chenaux, ancrage naturel, lieux de changement de charge, douanes et frontières politiques. Mais peut-être une imago de l'Afrique a-t-elle tout de même germé chez les Égyptiens de la civilisation pharaonique. Après tout, l'Égypte pouvait apparaître, pour qui venait du Levant, par voie de terre, par le Sinaï donc, comme la porte de l'Afrique. Porte étroite, à vrai dire, de moins de 200 km de large, entre le rivage méditerranéen et le golfe de Suez, au fond de la mer Rouge. Si cette porte unique permet d'entrer dans la maison Égypte par voie terrestre depuis le nord, deux portes à l'arrière distribuent de minces corridors. D'abord à l'ouest, du côté de ce que les Grecs et les Latins appelleront la Libye, nom de pays formé à partir d'un ethnonyme qui est peut-être lui aussi comme Afer Afri d'origine berbère et qu'employaient déjà les Égyptiens sous la forme Libou et les Hébreux sous la forme les Habim. Désignant au départ les voisins occidentaux de l'Égypte, c'est-à-dire les habitants de la Libye actuelle, le terme Libye a connu des dilatations et rétractations sémantiques au cours du temps et selon les auteurs. Du côté occidental de l'Égypte, donc, s'ouvre un corridor le long de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine qui contourne le golfe des Sirtes, cette vaste échancrure de la côte africaine entre Cyrène et Carthage. Au bout de ce corridor, on arrive dans la province que les Romains appelleront Africa et plus loin encore dans ce qu'ils appelleront les Mauritania. Environnés par la mer du côté nord et les sables du côté sud, ce mince corridor évoque une péninsule très étroite et très longue, ou plutôt un archipel, car les conditions d'accessibilité de ces espaces africains qui jalonnent la façade méditerranéenne de l'Afrique ne sont pas fondamentalement différentes de celles qui commandent l'accès aux véritables îles de la Méditerranée, comme le figure la carte que je vous montre à présent. Les chercheurs et les chercheuses, en particulier dernièrement Joséphine Crawley Quinn, discutent la question de la praticabilité de cette voie péninsulaire, ou en d'autres termes, de la connexion entre ces espaces, dès lors qu'on cherche à les apercevoir sous un jour archéologique. Mais il n'en reste pas moins qu'il existe une longue tradition, dans les sources antiques, comme dans les sources arabes médiévales, de perception des espaces méditerranéens de l'Afrique comme un ensemble d'îles propices à l'établissement humain et au commerce, mais séparées les unes des autres par des étendues qu'on ne saurait que traverser et pas habiter. Les Arabes, du reste, à partir de la conquête de l'Afrique du Nord au VIIe siècle, désigneront souvent les trois espaces en question comme un ensemble discontinu, formé du Jabal al-Aqdar, la Cyrénaïque, en Libye actuelle, la Jazirat al-Mahrib, l'île du couchant, correspondant à l'actuel Maghreb central, la Tunisie et l'Algérie. Je rappelle que Maghreb signifie le couchant ou l'Occident en arabe. Et enfin le Maghrib al-Aqsa, le Maghreb extrême ou l'extrême Occident, correspondant au Maroc actuel. Du côté sud de l'Égypte s'ouvre également un corridor le long du Nil, servant d'axe de communication avec les pays que les Égyptiens appelaient Kush, en particulier les civilisations de la Nubie, au Soudan actuel, avec lesquelles l'Égypte pharaonique n'a cessé d'entretenir des relations économiques et culturelles, et en regard desquelles elle n'a cessé de travailler sa perception de ses propres origines et de sa singularité culturelle. Il existe sur cette question une littérature considérable. Le corridor nilotique qui relie l'Égypte aux régions subsahariennes n'est cependant pas de tout repos. Il est ponctué de cataractes qui constituent autant de verrous le long de l'axe fluvial. Mais à vrai dire, ce corridor ne commande pas seulement les relations entre l'Égypte et ses voisins méridionaux, il structure également la géographie de l'Égypte elle-même, dont Damien Agut rappelle qu'elle est avant tout une oasis de seulement quelques kilomètres de largeur, au milieu d'un océan de sable, une oasis qui constitue, en tout cas depuis l'assèchement du Sahara au 4e et 3e millénaire avant notre ère, le seul domaine habité continu entre les deux rives du Sahara, et qui gagne elle-même à être appréhendée telle une oasis à travers le réseau de ses relations avec tous les espaces environnants. Sans doute est-ce à cette situation d'oasis et de carrefour que l'Égypte doit d'avoir réalisé depuis le néolithique une synthèse culturelle originale dont témoigne la civilisation pharaonique. Entre parenthèses, peut-être est-ce également à cette situation d'insularité de l'Égypte pharaonique qu'il faut attribuer la fascination contemporaine pour une civilisation qui, paradoxalement, nous apparaît encore aujourd'hui, en tout cas à nous, grand public, sans ascendance, sans parente et sans postérité, à moins que ce ne soit le contraire, ainsi que le suggère l'égyptologue Juan Carlos Moreno García, à savoir qu'un certain isolement de la discipline égyptologique au sein des sciences humaines contribuerait à avaliser l'image d'une civilisation splendidement sûre de son exceptionnalisme et à créer une image hollywoodienne de l'Égypte pharaonique fort éloignée des questionnements sociaux et des comparaisons anthropologiques avec les sociétés environnantes. Quoi qu'il en soit, des degrés variables de continuité ou de discontinuité entre l'Égypte et les régions voisines de l'Afrique, ces relations n'étaient pas de nature à faire naître par elles-mêmes le sentiment d'un vaste espace africain appréhendé comme entité géographique continue et bornée. Où pouvait-on éprouver la sensation de la bordure qu'éprouve le montagnard qui passe un col, le marin qui double un cap? Où pouvait-on éprouver la sensation de pénétrer la déchirure entre deux mondes et d'accompagner cette déchirure jusqu'à son terme? Peut-être certains l'éprouvèrent-ils le long du Nil lui-même, longue cicatrice liquide au milieu du monde, propre à faire croire qu'elle n'était pas une anomalie dans le désert, mais la séparation entre deux déserts, l'un libyque, l'autre oriental. Et du reste, beaucoup de praticiens des voyages de l'Antiquité et du Moyen-Âge ont fait commencer l'Inde dès la rive orientale du Nil, du désert oriental d'Égypte aux contrées africaines baignées par la mer Rouge, c'est-à-dire le Soudan oriental actuel et la Corne de l'Afrique. Il n'y a pas là d'erreur de géographie, simplement la trace d'une pensée qui cherche les parties du monde par la représentation de leurs limites. Écoutons d'ailleurs ce que Léon, dont on a rappelé à quel point sa vision de l'Afrique est informée par la géographie arabe médiévale, dit des limites de l'Afrique. Je place la citation que je vais lire en regard de la représentation graphique de la géographie mentale que se fait Léon de l'Afrique, représentation proposée par Bertrand Hirsch et moi-même dans une publication. Je cite Léon. « D'après les savants africains et les géographes, l'Afrique a pour limite orientale le Nil. D'à partir des affluents du lac de Gaoga au sud jusqu'à l'embouchure de ce fleuve dans la mer Méditerranée. L'Afrique commence au nord, à l'embouchure du Nil, et s'étend vers l'ouest jusqu'aux colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, hein, entre le Maroc et l'Espagne. À l'ouest, l'Afrique, donc toujours, va de ce détroit jusqu'à Noun, dernière localité de la Libye sur l'océan. Au sud, l'Afrique commence à Noun et s'étend le long de l'océan qui l'entoure tout entière jusqu'au désert de Gaoga. Équipé de Google Earth, comme nous le sommes nous-mêmes aujourd'hui, et donc doté d'une vision cosmographique qui connaît sa géographie par les contours continentaux, les anciens auraient pu aussi bien faire passer la limite de l'Afrique par le travers de l'isthme de Suez. Sans avoir cette connaissance, c'est d'ailleurs ce que certains ont fait, comme en témoignent les diverses tentatives d'aménagement d'un canal traversant l'isthme de Suez pour relier la Méditerranée à la mer Rouge. Damien Agut a récemment rappelé que le creusement de ce canal, semble-t-il jamais pleinement en fonction sur l'ensemble de ses segments, fut un projet récurrent qui connut plusieurs phases. Une première, sous le règne du pharaon Nekao II, qui règne de 610 à 595 avant notre ère. Première phase, donc, avait pour objectif d'ouvrir un canal navigable entre le golfe de Suez et la branche pélusiaque du Nil. Ces travaux, réalisés pour l'essentiel dans le cours d'un oued, le Wadi Tumilat, mais laissés inachevés, furent poursuivis lors d'une deuxième phase durant l'époque de la domination perse sur l'Égypte, sous le règne du grand roi Darius Ier, qui règne de 522 à 486. Une troisième phase consista en l'aménagement sous Ptolémée II Philadelphe, qui règne de 283 à 246 avant notre ère, durant la période gréco-macédonienne, d'un ouvrage servant d'écluse à l'embouchure du canal du côté de la mer Rouge. Signe que le segment méridional de ce canal était alors en fonction, tandis qu'un nouveau raccordement au Nil était aménagé du côté nord afin d'améliorer une alimentation en eau soumise aux crues du fleuve. Enfin, une autre phase de travaux, la quatrième en un millénaire, s'ouvrit sous l'empereur Trajan au IIe siècle de notre ère, à l'heure de la domination romaine sur l'Égypte, qui remit en fonction le canal de Ptolémée II. Ces différentes phases sont documentées respectivement par l'historien grec Hérodote pour la première phase, plusieurs stèles dédicatoires perses pour la deuxième, l'historien grec Diodore de Sicile et la stèle commémorative dite de Pitom pour la troisième phase, et enfin le géographe alexandrin Claude Ptolémée, dont nous avons déjà parlé, ainsi que divers documents, notamment un reçu sur Ostracon pour le paiement d'un droit de passage sur le canal pour la quatrième phase. Ce canal était un aménagement destiné à faciliter l'acheminement des marchandises entre les deux façades maritimes de l'Égypte, en évitant autant que possible les ruptures de charges et le portage entre ces deux régions. Il est donc légitime de l'étudier sous l'angle de la documentation relative aux directions des flux et aux marchandises échangées. Mais on peut aussi considérer que l'entreprise même de jonction des deux domaines de navigation, celui de la Méditerranée et celui de la mer Rouge, et plus lointainement de l'océan Indien, réalisait pour ainsi dire la réunion mentale de bassins maritimes jusque-là séparés, voire d'horizons diamétralement opposés. À nouveau, méfions-nous de nos projections cosmographiques rétrospectives. Il n'en reste pas moins que les témoins littéraires et archéologiques sont nombreux, qui invitent à considérer que la cicatrice du Wadi Tumilat, où fut pratiqué le canal, était perçue comme une frontière suffisamment active pour qu'elle fît office de seuil entre l'Égypte et le Levant, mais également une ligne de partage entre les mondes, qu'il était donc utile de parcourir longitudinalement. À partir de cette ligne du canal des pharaons, l'expérience pouvait tirer des prolongements le long de deux profils côtiers, l'un vers l'ouest, en Méditerranée, l'autre vers le sud, en mer Rouge. À partir de cette ligne, à défaut de voir déjà se dessiner l'immense presqu'île africaine, dont rien ne laissait d'ailleurs supposer qu'elle était une presqu'île, du moins était-il possible de spéculer au sujet de son contournement. Nous possédons un certain nombre de témoignages antiques évoquant des entreprises de navigation côtière, des périples au sens grec de navigation autour, quoique la route décrite ne soit pas toujours nécessairement un parcours de contournement complet, ce que nous appellerions plus volontiers du nom de circumnavigation. Au milieu du 1er siècle de notre ère, un grec anonyme d'Égypte, alors romaine, a ainsi laissé un périple de la mer Érythrée, c'est-à-dire l'océan Indien, y compris ce que nous appelons aujourd'hui la mer Rouge. Il est connu, ce périple, par un manuscrit unique, copié au début du Xe siècle, aujourd'hui conservé à Heidelberg. Il s'agit d'un guide de navigation rédigé par un marchand à l'intention d'autres marchands, fournissant les indications nautiques d'escale en escale et donnant la liste, souvent lapidaire mais instructive, des produits qui pouvaient être vendus et achetés en chaque lieu, assortis de renseignements sur l'administration et les mœurs locales. On peut assez aisément suivre la route depuis Myos Hormos, au sortir du golfe de Suez, sur la côte égyptienne de la mer Rouge, jusqu'au détroit appelé le Bab el-Mandeb, aujourd'hui, qui débouche dans le golfe d'Aden. Le long de cette route maritime de la mer Rouge, plusieurs points d'escale africains sont décrits. Voici par exemple ce que nous dit notre marchand grec à propos d'Adoulis, situé en Érythrée actuelle. À environ 3000 stades, je traduis grossièrement, je reviendrai sur ça plus tard, 550 km ou 6 jours de navigation, à environ 3000 stades, après Ptolémaïs Théron, se trouve un port de commerce, Emporion, restreint, Adoulis. Il est sur une baie profonde orientée plein sud, en face de laquelle se trouve une île appelée Oreinée, située à environ 200 stades en mer, du point le plus intérieur de la baie, et dont les deux côtés sont parallèles à la côte. C'est là qu'aujourd'hui les navires qui arrivent s'amarrent, du fait des attaques sur la terre ferme. Avant, ils avaient pour habitude de s'amarrer à l'extrémité de la baie sur une île appelée Didoros, tout près de la côte. Il y a là un passage à gué qu'empruntaient les Barbaroi habitant les alentours pour envahir l'île. Sur cette partie de la côte, en face d'Oreinée, à 20 stades de la mer, se trouve Adoulis, un village commet, un village de bonne taille. D'Adoulis, c'est un voyage de 3 jours pour Koloé, une ville de l'intérieur qui est le premier poste commercial pour l'ivoire, d'où en 5 jours, on se rend à la métropole elle-même, qui s'appelle Aksomites. C'est là, traversant ce qui est appelé le Kénéion, qu'est apporté tout l'ivoire depuis les régions d'au-delà du Nil, avant de descendre à Adoulis. Les quantités d'éléphants et de rhinocéros qu'on abat habitent les régions hautes, encore qu'en de rares occasions, on en voit sur le rivage autour d'Adoulis même. En face du port de commerce, c'est-à-dire du côté de la pleine mer, sur la droite, se trouvent d'autres îles, petites et sableuses, appelées Alalayou. Elles fournissent l'écaille de tortue qui est livrée au port de commerce par les ichtyophages. Fin de citation. On a là, passé au filtre des informateurs locaux avec lesquels les marchands sont en contact lors de leur escale, sur ce point de la côte, un aperçu de la diversité sociale de cette région d'Afrique, subsumée sous la désignation générique de Barbaroi, s'appliquant à toutes les populations africaines, depuis la côte de la mer Rouge jusqu'à celle de l'océan Indien. Dans l'espace côtier, des Barbaroi sont assujettis à une économie littorale, ils consomment du poisson, ils sont nommés ichtyophages, et vendent de l'écaille de tortue de mer. Mais dans l'intérieur, une société urbaine se rencontre, une société urbaine que domine Aksum, à 8 jours de marche dans l'intérieur, qui organise une route commerciale pour l'approvisionnement du port d'Adoulis en ivoire d'éléphants et de rhinocéros. Revenons au périple. À partir du golfe d'Aden, deux routes divergent. L'une, à l'est, longe les rivages de la mer d'Arabie, faisant plusieurs escales sur la côte arabique et sur les rivages, la côte arabique et sur les rivages de la mer d'Oman, traverse le détroit d'Ormuz sans entrer dans le golfe Persique, puis longe les côtes perses et enfin les côtes indiennes, mentionnant de nombreux ports dans le golfe de Cambay au nord et la côte de Malabar au sud, région où les marchands grecs vendent du vin, des métaux, cuivre, étain, plomb, et du verre brut, et où l'on achète de l'ivoire, des pièces de soie, du nard et du poivre. Plusieurs points des faces occidentales et orientales de la pointe méridionale de l'Inde sont encore mentionnés jusqu'au détroit entre l'Inde et Sri Lanka, après quoi, jusqu'à l'embouchure du Gange, les indications deviennent plus sommaires et sont probablement indirectes. L'avis des spécialistes, basé sur les implications du texte, et qu'il y avait là, à l'extrémité sud de l'Inde, un point de rupture de charge et un seuil entre bassins marchands. Revenons dans le golfe d'Aden, qui sépare la corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Là commence une seconde route maritime destinée au sud, cette fois. Elle double la pointe de la corne somalienne, appelée Tabay, puis une péninsule située à 400 stades sous l'extrémité de la corne, qui est reconnaissable par tout marin. Il s'agit du cap Openai en grec, Ras Hafoun aujourd'hui. Au passage, admirons le fait que le toponyme s'est conservé sous une forme à peine altérée depuis près de 2000 ans. Là se trouve un port où l'on se procure de la casse, de l'écaille de tortue et des esclaves de la meilleure qualité, dit le texte, destinés à être vendus en Égypte. Cette route maritime s'engage ensuite le long d'un pays qu'il appelle Azania, Azani en français. Dans ces parages lointains, précise le texte, il arrive également que l'on accoste depuis l'Inde directement et que l'on y écoule des produits indiens tels que du riz, du beurre, de l'huile de sésame, des pièces de coton ou encore du sucre. Nous sommes donc sur le haut de la corne de l'Afrique. Suit vers le sud un long segment côtier austère, sans doute le désert somalien, coponctue, plusieurs embouchures de fleuves, sans doute la région du Benadir, dans la partie sud de la Somalie actuelle. Puis vient un groupe d'îles, les Piralaoi, dans le texte grec, peut-être l'archipel de Lamu, dans le nord de l'actuel Kenya, puis l'île de Menoutias, peut-être l'île tanzanienne de Pemba, au nord de Zanzibar. Je dis peut-être, car en vérité, nous ne reconnaissons pas les lieux trop succinctement décrits par le texte, ni les toponymes, qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, ni même la scansion de l'itinéraire qui laisse de côté des faits géographiques qui auraient dû être vus, ou bien enjambe des espaces qui ne peuvent pas si aisément se laisser raccourcir.
Collège de France et France Culture vous présente l'historien archéologue François-Xavier Fauvel, sa série Introduction aux mondes africains médiévaux, aujourd'hui périples antiques et circumnavigation de l'Afrique.
Semblables itinéraires laissent prise à une certaine élasticité interprétative et certains chercheurs ont même cru pouvoir identifier Menoutias et Zanzibar, ce qui représenterait un petit glissement, ou même Menoutias et Madagascar, ce qui représente un très gros glissement de près d'un millier de kilomètres. On ne peut bien sûr pas exclure une confusion géographique entre Pemba et Madagascar, ou entre n'importe quelles autres régions éloignées l'une de l'autre, et possiblement subsumées sous le même nom, à l'instar de ce que nous avons vu avec Marco Polo ou avec la map-monde de Fra Mauro. Mais on doit d'abord essayer de sauver une vision conservatrice de cet itinéraire, seule façon de sauver sa valeur documentaire. Il faudrait pour cela avoir un point fixe et reconstituer l'itinéraire à partir de lui. À vrai dire, on l'a peut-être, et il tend à confirmer ce qui précède sans certitude absolue. Il s'agit du terminus de cette route. Voici ce qu'en dit notre marchand grec. Je lis avec vous. Deux étapes après cette île, il s'agit de Menoutias, arrive le tout dernier port de commerce, toujours le même mot, Emporion, de la côte d'Azania, appelé Rapta, où il y a une grande quantité d'ivoire et d'écailles de tortues. Des hommes très corpulents qui labourent la terre habitent la région. Ils se comportent, chacun en son lieu, exactement comme des chefs, Turanois. La région est sous l'autorité du chef, Turanos, de Mafaratis, je précise, c'est une province du royaume de Saba et Himyar, en Arabie du Sud, car en vertu d'un droit ancien, elle est assujettie au royaume d'Arabie depuis les origines. Les marchands de Moussa, qui est le port de Mafaratis, la détiennent par donation du roi et y prélèvent l'impôt. Ils y envoient des bateaux avec des pilotes et des agents commerciaux arabes qui, du fait de relations et d'intermariages, sont familiers de la région et de sa langue. Les principaux produits importés dans ces ports d'Azania sont des lances fabriquées à Moussa, des haches, des couteaux, de petits poinçons, plusieurs types de pierres vitreuses, ainsi que, dans certains endroits, du vin et du grain en grande quantité, pas tant pour le commerce que pour la satisfaction des barbaroïs. Quant aux produits d'exportation, une grande quantité d'ivoire, mais inférieure à celui d'Adoulis, de la corne de rhinocéros, de l'écaille de tortue de la meilleure qualité après celle de l'Inde, et un peu de coquille de nautile. C'est un coquillage. Fin de citation. Relevons pour mémoire la mention, tout à fait singulière, si l'on comprend bien le texte, d'un comptoir sud-arabe établi le long de la côte est-africaine, attribué en fief au chef ou au gouverneur de la province de Moussa au Yémen actuel par le roi de Saba et Himyar, et que le gouverneur de Moussa lui-même accorde en concession à des marchands sud-arabes qui ont formé des alliances matrimoniales sur place. Mais revenons à la question de la localisation. Le nom de Rapta ne nous dit rien. L'auteur du périple le glose comme un mot grec signifiant « cousu », qu'il met en rapport avec des embarcations cousues qu'il a brièvement évoquées plus tôt à propos de l'île de Menoutias. On est tenté d'y voir des navires dont les planches de la coque sont assemblées par couture ou ligature et non par des tenons, mais l'allusion est trop brève pour qu'on y reconnaisse un type culturel défini. Quoi qu'il en soit, l'étymologie réelle ou fondée sur une simple proximité phonétique avec une langue africaine ne nous est pas utile pour localiser l'endroit. Depuis l'étude consacrée à la localisation de Rapta par le géographe tanzanien Bachir Datu en 1970, basée sur une prise en compte minutieuse du régime des vents dans l'ouest de l'océan Indien et de la topographie côtière, un relatif consensus s'est fait parmi les spécialistes pour établir que Rapta devait être cherché entre l'embouchure du Pangani et l'embouchure du Rufiji, deux fleuves qui encadrent un segment côtier de 400 km de part et d'autre de l'actuel Dar es Salaam en Tanzanie. Des prospections, y compris une récente cartographie archéologique par système d'information géographique, travaux principalement centrés sur les alentours du delta du Rufiji, n'ont pas permis jusqu'à présent de repérer un site clairement identifiable avec Rapta. Néanmoins, grâce notamment à l'archéologue tanzanien Félix Chami, des indices se sont accumulés depuis les années 90. Tout d'abord, l'archéologie a révélé un accroissement du nombre de sites liés à la réduction et au travail du fer dans la région du Rufiji au cours des premiers siècles de notre ère, un phénomène sans doute à corréler avec une densification de l'occupation du territoire par les sociétés africaines locales et une augmentation de l'activité économique, peut-être en lien avec un commerce croissant, avec un comptoir étranger. Mais surtout, des artefacts témoignant d'échanges commerciaux avec le monde méditerranéen au cours des premiers siècles de notre ère ont été mis au jour dans plusieurs sites. Kivinja, par exemple, à une vingtaine de kilomètres au nord du delta du Rufiji, a livré de la céramique, des fragments de verre et des perles d'origine moyenne-orientale. Un autre site, Mkukutu, à une quarantaine de kilomètres de la côte dans l'intérieur, a quant à lui livré 4 perles romaines. Il s'agit de perles à inclusion foliaire, dorées en vert bleu, qui ont pu être produites durant une période assez longue, entre 100 avant notre ère et 400 de notre ère. Des charbons prélevés dans les niveaux archéologiques d'où proviennent ces perles indiquent une fourchette de datation entre 250 et 500 de notre ère, c'est-à-dire plusieurs siècles après la date du périple, mais néanmoins encore durant la période de floraison du commerce romain. Notons cependant, pour apporter un bémol, que le contexte archéologique de ces trouvailles apparaît peu sûr, au vu du fait que les perles, qui sont les seuls objets importés provenant de ce site, n'ont pas été trouvées en place associées à des structures. Quoi qu'il en soit, qu'elles procèdent d'un remploi de perles acquises un siècle avant le périple, ou bien proviennent d'échanges commerciaux postérieurs de 2 ou 3 siècles au périple, elles confirment l'existence d'un bruit de fond en lien avec le commerce romain. Pour en finir avec Rapta, écoutons ce que dit encore notre marchand grec après la mention des ports de Lasagna et de cette Emporion de Rapta. Je cite. « Ce sont les tout derniers ports de commerce de la côte d'Azania. Car au-delà de cette région s'étend l'océan inexploré qui s'incline vers l'ouest et qui, s'étirant au sud le long des parties de l'Éthiopie, de la Libye et de l'Afrique qui font demi-tour, rejoint la mer occidentale. » La mer occidentale, pour ce grec d'Égypte qui appartient au monde romain, c'est ce que nous appelons l'océan Atlantique. Un siècle avant Claude Ptolémée, lui aussi grec d'Égypte, dont vous vous souvenez qu'il ne croyait pas à l'ouverture de l'océan Indien et donc à l'individualisation continentale de l'Afrique, notre marchand, lui, y croit. Ou en tout cas, veut y croire, quand bien même son expérience, ou en tout cas celle qu'il collecte auprès d'autres et qu'il juge digne de nous transmettre, s'arrête à Rapta, à hauteur de Dar es Salaam, en Tanzanie. Ce qui nous invite à introduire ici une distinction au sein de ce que nous percevons comme des connaissances géographiques. Une distinction entre connaissances de route régulières et aventures ou explorations qui sont par nature occasionnelles. Fruit d'une expérience accumulée par des marchands, le périple de la mer Érythrée est un tableau qui présente le domaine des navigations régulières de ces marchands, ce qui n'exclut nullement la possibilité d'incursions occasionnelles plus lointaines ou même la présence, au-delà des termini habituels, de communautés établies. Tel est, par exemple, au bout de la route indienne du périple, que nous avons rapidement examinée tout à l'heure, la semaine dernière, le cas d'Arikamedu, en pays tamoul indien, passé le détroit de Pok entre l'Inde et le Sri Lanka. Le site, à quelques kilomètres au sud de Pondichéry, a livré une quantité importante d'amphores romaines ayant contenu du vin de Campanie, de l'huile d'olive du nord de l'Adriatique et du garum. Vous savez que le garum est une sauce fermentée à base de poisson, essentielle à la cuisine romaine, du garum d'Espagne, qui semble attester de la présence d'une colonie de Méditerranéens au cours des 2 premiers siècles de notre ère. Nous serions donc là, au-delà de Mousiris, terminus des navigations romaines régulières en Inde. Mais de tels exemples d'excursions ou d'établissements en dehors du domaine de circulation régulier, c'est-à-dire dont les balises sont à la fois posées et transmises par des textes tels que celui-ci, soulignent précisément ce qu'ils ont d'extraordinaire. En cela, le périple de la mer Érythrée n'est pas un récit d'exploration, genre différent, et le départ du reconnu et de l'inconnu, du factuel et du légendaire, serait par définition plus difficile à opérer. Quelques-uns des périples libyques ont laissé des traces si ténues dans la tradition écrite que l'auteur de l'exploration ou du récit demeure incertain, l'exploration elle-même difficile à attester ou à dater, son dernier point, son terminus atteint, presque impossible à déterminer. Je m'appuie dans ce qui suit sur les travaux de référence de Jean Desange, synthétisés dans son ouvrage intitulé « Recherche sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique », paru en 1978. Aux environs de la seconde moitié du VIe siècle avant notre ère, un grec de Marseille, du nom d'Euthymène, aurait ainsi navigué sur l'océan Atlantique et atteint, quelque part de l'autre côté de la Libye, un point où l'eau, nous dit-il, était douce et remplissait le Nil. Avec une malice qui nous fera sourire, un auteur plus tardif qualifie ce récit de fable marseillaise. Deux siècles plus tard, un certain Silax aurait réalisé un périple entre l'Égypte et le Maroc atlantique par la Méditerranée. Le récit s'embrume de façon proportionnelle à la distance, mais ses sources ne sont pas forcément imaginaires. À l'été 146, au lendemain de la chute de Carthage à laquelle il vient d'assister, l'historien grec Polybe, quant à lui, s'embarque pour une navigation qui le conduit sans doute jusqu'au cap Juby, le point de la côte africaine le plus proche de Fuerteventura, l'une des Canaries. Mais arrêtons-nous quelques instants sur le périple de Hannon, récit grec daté du IIe ou du Ier siècle avant notre ère, qui se présente comme une traduction ou une adaptation d'un texte punique qui aurait été inscrit dans un temple dédié au dieu Cronos à Carthage. Le supposé texte original n'a jamais été retrouvé. Le récit grec relate ce qui suit. Hannon, un roi carthaginois, emmène sa flotte jusqu'aux colonnes d'Héraclès, le détroit de Gibraltar, puis tourne au Midi, fonde quelques villes chez les Libyens, non sans faire la rencontre d'hommes sauvages vêtus de peaux de bête et de femmes au corps velu, dans des contrées parfumées où coulent des ruisseaux ardents. Venant à manquer de vivres, la flotte fait demi-tour et rentre au pays. Cette fois, c'est Pline l'Ancien qui ironise et voit dans ses aventures des fables, non plus marseillaises, mais puniques. Pourtant, quoi d'étonnant que des Carthaginois naviguent le long des côtes africaines au-delà du détroit de Gibraltar, puisqu'il y avait là des comptoirs phéniciens, nous le savons, depuis le 8e siècle avant notre ère. On connaît un de ces établissements à Lixus, au nord, près de l'actuelle ville marocaine de Larache, et un autre à Mogador, au sud, près d'Essaouira, qui semble bien être le point extrême du domaine des navigations phéniciennes régulières. Lixus et Mogador ont tous deux été documentés par l'archéologie. Mais qu'en est-il plus loin, plus au sud, c'est-à-dire le long du Sahara et des côtes de l'Afrique subsaharienne, où l'on a pensé parfois localiser les pays luxuriants évoqués dans le récit? Ne peut-on penser que les Carthaginois s'aventurèrent, ne serait-ce qu'une fois, au-delà du terminus d'un domaine régulièrement visité? Les débats sur le périple d'Hannon ont fait rage. Des savants, par exemple Raymond Mauny, ont invoqué les conditions naturelles, le vent, les houles, les courants, pour plaider l'impossibilité, en tout cas avant les progrès techniques de la fin du Moyen-Âge, de dépasser le cap Juby, déjà plus de 600 km en droiture, comme disent les marins, au-delà de Mogador. On a aussi vanté, et inversement, l'avantage que présentaient dans ces conditions les navires à rames de l'Antiquité, puisqu'ils pouvaient justement s'affranchir, fût-ce au prix d'efforts considérables, du régime des vents défavorables. On a signalé le nimbe d'imaginaire sur la description des lieux une fois passée l'île de Cernay, qui est peut-être justement Mogador. Mais pour d'autres, la flore dont l'odeur emplit les narines, les musiques de tambourins, les anthropomorphes velus qui évoquent quelque espèce de primate, la chaleur, signalent une certaine ambiance d'Afrique tropicale ou équatoriale qui aurait, selon eux, une certaine vraisemblance. À moins, rétorquent les premiers, que cette couleur locale n'ait été justement recherchée par les auteurs du périple. On a remarqué ainsi les indications positives contenues dans le récit, mais aussi toutes les indications qui devraient y être et qui ne s'y trouvent pas, à commencer par les désolantes et interminables plages du désert du Sahara. Aujourd'hui, Le consensus entre spécialistes paraît être que, passé Cernay, point jusqu'auquel les indications nautiques et physiques restent, avec un peu de conviction, plus ou moins compréhensibles, tout prend des teintes de merveilleux qui sentent le récit imaginaire. Est-ce pour autant un argument définitif ? Après tout, le merveilleux peut être autant le produit de l'imaginaire que le fruit d'un dépaysement complet engendré par un voyage tout ce qu'il y a de plus réel et proprement extraordinaire, comme il arrive que certains en aient fait au-delà des termini réguliers imposés par les habitudes de l'époque et les conditions physiques et environnementales. On ne peut cependant conclure qu'à une chose. Si exploration il y eut au-delà du domaine régulier des navigations carthaginoises, elle ne peut pas être prouvée. Et rappelons, au risque de faire pencher la balance en défaveur de l'authenticité du voyage, que le périple d'Annon n'est pas un témoignage carthaginois. C'est un texte tout entier imprégné de culture hellénique. Au même titre, comme nous le dit avec humour l'historien de l'Antiquité Christian Jacob, au même titre que Le Seigneur des Anneaux est une fiction anglaise écrite par Tolkien et non le manuscrit des mémoires de Bilbo le Hobbit. S'il y avait cependant sédimenté tout au fond du texte, non pas quelques voyages mais quelques récits originaux carthaginois à trouver, l'historien africaniste jugerait que cette histoire de roi emmenant au-delà des mers tout un peuple d'hommes et de femmes au nombre de 30 000, établissant à chaque étape des villes dont nous est donnée la liste, a tout de même quelque chose d'un récit de fondation, peut-être d'autant plus crédible qu'il est, comme tous les récits de fondation, auréolé de légendaires et de folklore. Hérodote, dans un passage du quatrième livre de ses histoires, évoque deux périples dont le projet, nous dit-il, était de réaliser la circumnavigation de la Libye. Le premier récit nous dit à peu près ceci. Un pharaon égyptien, Nékos, dans le texte grec, évidemment Nékao II, dont nous nous souvenons qu'il avait entrepris, avant de les stopper, les grands travaux en vue du creusement d'un canal entre le Nil et la mer Rouge, Nékos donc ordonna à des marins phéniciens d'effectuer le contournement de la Libye. Parti de la mer Érythrée, donc de la façade maritime orientale de l'Égypte, les marins revinrent 3 ans plus tard par les colonnes d'Héraclès, écrit l'historien grec, s'étant arrêtés 2 fois pour semer du blé et attendre la récolte. Ils racontèrent, chose qu'Hérodote ne peut croire, mais que, nous dit-il, d'autres peuvent croire, que naviguant autour du continent, ils avaient eu le soleil à leur droite. C'est en sens inverse, en revanche, qu'aurait, toujours selon Hérodote, voyagé Sataspès, un membre de la famille royale perse, d'après un récit que l'historien grec tenait d'un eunuque qui avait été au service de ce prince. Ce Sataspès, qui s'était rendu coupable de viol, avait été condamné à mort par le roi Xerxès. L'intervention de la mère du jeune homme convainquit le souverain de commuer la peine en une épreuve jugée par elle aussi lourde, consistant à réaliser la circumnavigation de la Libye. Parti également d'Égypte, peut-être parce qu'il fallait recruter des marins phéniciens qui trouvaient à s'y employer, mais cette fois de la façade maritime méditerranéenne, Sataspès traversa la Méditerranée d'est en ouest, doubla les colonnes d'Héraclès, s'engagea au sud et atteignit, nous relate Hérodote, un pays habité par des petits hommes aux vêtements faits de feuilles de palmier qui s'enfuyaient chaque fois que les étrangers débarquaient pour piller leurs vivres. Contraint de faire demi-tour, parce que, ainsi qu'il s'en expliqua plus tard, son navire ne pouvait plus avancer plus avant, mais était arrêté, il s'en revint auprès de Xerxès, qui le fit empaler. Deux tentatives à 130 ans d'écart, l'une au tournant du 7e-6e siècle, l'autre dans le premier tiers du 5e siècle avant notre ère. Toutes deux parties d'Égypte, la première sous l'impulsion volontariste d'un pharaon, la seconde au titre de l'exécution d'une peine prononcée par un grand roi perse. La seconde fut un échec, mais la première aurait été un succès. Et voici comment, nous dit Hérodote, voici comment on sut d'abord ce qu'il en est de la Libye, concluant ainsi le périple des marins de Nécao. Lisons ensemble le passage de Hérodote relatif à ce périple des marins phéniciens de Nécao. J'admire donc ceux qui ont partagé le monde en Libye, Asie et Europe. Alors qu'entre ces parties, les différences ne sont point petites. Car dans le sens de la longueur, l'Europe s'étend tout le long des deux autres, et sous le rapport de la largeur, il ne me paraît pas qu'elle puisse même être mise en comparaison. Pour la Libye, en effet, ce qu'on sait d'elle prouve qu'elle est tout entourée par la mer, sauf ce qui en confine à l'Asie. Il parle donc là de l'isthme de Suez, le Sinaï. C'est Nécos, le roi d'Égypte, qui, le premier, à notre connaissance, en a fait la démonstration. Après qu'il eut cessé de creuser le canal allant du Nil au golfe arabique, il fit partir sur des vaisseaux des hommes de Phénicie, avec ordre pour leur retour de pénétrer en passant les colonnes d'Héraclès dans la mer septentrionale, c'est-à-dire la Méditerranée, et de revenir par cette voie en Égypte. Ces Phéniciens, donc, partis de la mer Érythrée, qui est la mer Rouge, naviguaient sur la mer Australe. Quand venait l'automne, ils abordaient et ensemençaient le sol à l'endroit de la Libye où ils se trouvaient chaque année au cours de leur navigation, et ils attendaient l'époque de la moisson. Le blé récolté, ils prenaient la mer, si bien que, au bout de 2 ans, ils doublèrent la 3e année les colonnes d'Héraclès et arrivèrent en Égypte. Et ils racontaient, chose que, quant à moi, je ne crois pas, mais que d'autres peuvent croire, que pendant qu'ils accomplissaient le périple de la Libye, ils avaient eu le soleil à leur droite. Voilà comment on sut d'abord ce qu'il en est de la Libye. Fin de citation. Notons-le, Hérodote ne doute pas un seul instant que cette circumnavigation entreprise par les marins phéniciens de Nécao, contrairement à celle entreprise par Sataspès pour tenter d'échapper à la mort, fut un succès qui révéla ou prouva pour la première fois le caractère péninsulaire du continent africain. Ce qu'Hérodote ne peut croire, en revanche, c'est que les marins phéniciens avaient eu le soleil à leur droite. Des milliers de pages de commentaires ont été écrites depuis l'Antiquité au sujet de ce périple, soit pour l'authentifier, soit pour le mettre en doute. On a cherché à reconstituer l'itinéraire sur la base des 2 halpes saisonnières qui sont évoquées par Hérodote. Certains chercheurs ont même cru détenir la preuve du passage du Cap de Bonne-Espérance dans des peintures rupestres d'Afrique du Sud, que voici. Ces peintures rupestres proviennent de 2 sites de la région de Clan William, dans la province du Cap, en Afrique du Sud. Elles ont été mises en relation avec l'escale qu'auraient faite les marins de Nécao, et elles livreraient en quelque sorte des instantanés saisis par les sociétés locales, des populations qu'on peut présumer être de langue Khoisan. La première, la photographie en haut, l'original de la peinture est rouge, représenterait le navire phénicien. La seconde, en bas de l'image, qui est un relevé fait par l'archéologue, représenterait une chaloupe à l'aide de laquelle les navigateurs phéniciens auraient débarqué. Notons au passage, à l'appui de cette hypothèse, qu'ils auraient même pu faire une escale prolongée et cultiver du blé, car il se trouve que l'extrémité de l'Afrique, qui est à une latitude de 35 degrés sud, présente un climat et un milieu végétal méditerranéen tout à fait comparable au climat et au milieu des rivages méditerranéens de l'Afrique du Nord par 35 degrés de latitude nord. Cette théorie est cependant un cas extrême de sollicitation du sens d'un document rupestre à partir d'un texte historique. Car en l'absence de datation directe de ces peintures par analyse au carbone 14, du pigment organique, une technique encore peu appliquée aujourd'hui aux images rupestres, rien dans ces images n'indique le caractère proprement phénicien des embarcations qui peuvent fort bien être des embarcations européennes du XVe siècle ou postérieures. En outre, l'art rupestre d'Afrique du Sud livre de très nombreux exemples d'embarcations dont on peut penser, dans un grand nombre de cas, qu'elles sont des figurations mythologiques. Comme souvent, lorsqu'on a affaire à un apax documentaire, c'est-à-dire un document qui constitue la seule attestation d'un événement historique qui ne s'inscrit pas dans une série, la fabrique de l'intime conviction consiste à hiérarchiser des arguments à charge et à décharge. Certains arguments jugés suspects par les uns pouvant d'ailleurs être les mêmes que ceux jugés convaincants par les autres. On a plaidé, par exemple, l'invraisemblance d'un apax historique sans autre écho que le témoignage d'Hérodote. Mais on a également plaidé, inversement et avec raison, que l'invraisemblance n'est pas toujours un argument recevable. Après tout, les navigations des Austronésiens à la pirogue, qui les conduisent à aborder et à peupler vers l'an 1000, le plus silencieusement du monde, l'île de Pâques, à l'est, dans le Pacifique, ou Madagascar, à l'ouest, dans l'océan Indien occidental, aussi bien qu'à fréquenter très probablement les côtes d'Afrique orientale, comme semblent l'indiquer les recherches récentes, sont tout à fait invraisemblables et pourtant vraies. Aucun élément du récit d'Hérodote n'a soulevé davantage de commentaires que celui se rapportant à la position du soleil. N'allons pas penser que les marins phéniciens, remontant l'Afrique par l'Atlantique, en direction des latitudes méditerranéennes, avaient tout bonnement fait l'expérience de découvrir le soleil à leur droite en se réveillant le matin. Comme le dit avec humour Jean Desanges, vous voyez que les antiquisants ont beaucoup d'humour, l'éminent helléniste commentateur de ce texte, « Avoir le soleil à sa droite est une expérience que chacun peut faire en tournant autour d'une chaise dans son jardin. » L'interprétation adéquate de ce passage a été faite en 1842 dans un essai intitulé « Philosophie d'Hérodote » par un écrivain, le fameux auteur des « Confessions d'un mangeur d'opium anglais », Thomas de Quincey.
C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter l'historien archéologue François-Xavier Fauvel, sa série « Introduction aux mondes africains médiévaux », aujourd'hui « Périples antiques et circumnavigation de l'Afrique ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François-Xavier Fauvel. Sa conférence inaugurale intitulée « Leçons de l'histoire de l'Afrique » a été publiée chez Fayard avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Parmi ses nombreux ouvrages, je rappelle « Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain » chez Alma, puis en folio en 2014. Il a également dirigé « L'Afrique ancienne, 20 000 ans avant notre ère, 17e siècle » chez Belin en 2018. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Demain, François-Xavier Fauvel poursuivra son exploration du continent africain contourné. Il sera question des navigations médiévales et modernes. Dans quelques instants, la suite de votre programme sur France Culture. Bonne journée à l'écoute de notre radio.